Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies.
C'est pas évident quand ils intègrent la MILDECA, quand chacun d'entre nous intègre la MILDECA, de faire suffisamment de pas vers les autres pour s'ouvrir à des points de vue qui sont nécessairement assez différents. La culture professionnelle fait que quand vous regardez les choses du point de vue d'un fonctionnaire de police ou du point de vue d'un spécialiste de la réduction des risques, vous voyez les choses au départ assez différemment. Et nous, on est un petit laboratoire, une petite équipe expérimentale du consensus possible.
Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradictions, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction ? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Derrière l'acronyme aux notes chocolatées MILDECA se cache une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, mais aussi une trentaine d'agents, tous engagés à prévenir les addictions, à favoriser l'accompagnement, réduire les risques et les dommages, lutter contre le trafic, mieux faire appliquer la loi et diffuser les connaissances scientifiques. Et c'est mon invité qui, depuis presque 7 ans, a pris les rênes de cette institution placée auprès du Premier ministre. Il orchestre ainsi l'impulsion et la coordination des efforts des différents départements ministériels pour réduire les consommations addictives et leur impact, qu'il s'agisse de substances licites, de drogues ou de comportements sans produit. Rien à voir avec le chocolat donc.
Médecin qualifié en santé publique, il a construit sa carrière principalement au sein du ministère de la Santé pour devenir un conseiller influent aux politiques de santé publique. Mais sa passion reste avant tout la mer, qu'il contemple autant qu'il la traverse. Et c'est sûrement aussi ce qui lui permet d'observer les faits et de naviguer parfois à vue entre les écueils complexes de la lutte contre les addictions. Merci Nicolas Prise de nous avoir accordé cet entretien, mais aussi votre confiance en soutenant le podcast Contradiction. Je me sens désormais investie d'une mission de santé publique et je vous avoue que j'ai presque un peu l'impression de faire partie du gouvernement. En tout cas, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Bref, ça me rend fière autant que ça me fout la pression. Bienvenue Nicolas dans mes contradictions.
Merci beaucoup.
Je suis doublement heureuse parce qu'aujourd'hui, nous avons conclu cet engagement mutuel. De nous soutenir l'un et l'autre, en tout cas.
Absolument.
On va essayer de faire de notre mieux pour aider dans cette lutte contre les addictions. Et vous nous faites confiance.
Absolument. Et je suis très heureux, effectivement, qu'on puisse travailler toute une année ensemble, que plein de gens puissent vous écouter pour parler des sujets qui nous sont chers, qui sont des sujets importants pour les jeunes, pour la société, qui ont plein d'impacts compliqués à gérer. Et je crois que votre positionnement, votre voix, la manière d'aborder les choses sera un plus pour nous, pour mieux prévenir, mieux accompagner.
Je suis très, 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 très fière. Nicolas Prise, quelle est votre définition de l'addiction ?
Je crois que l'addiction, il faut se représenter ça maintenant comme une maladie chronique, avec des moments d'amélioration, des risques de rechute. Une dépendance, c'est-à-dire finalement des temps où on est, où un objet d'addiction devient central dans la vie d'une personne. Quand on est vraiment addict à quelque chose, un produit, tout tourne quand même un peu autour de ça. Et derrière ça, il y a quelque chose peut-être de plus intime encore, de plus personnel, c'est la perte de la liberté, d'une forme de liberté, parce que quand il y a un objet comme ça qui prend toute la place, il n'y a plus beaucoup de place pour d'autres choix, en réalité.
Mmh. Complètement. En plus, voilà, on est dans un pays où la liberté est quand même érigée avec la fraternité et l'égalité. Est-ce qu'on est tous égaux face à l'addiction ? Ça, c'est encore une autre question.
Mais la réponse est non.
La réponse est non, voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer votre mandat, donc, et la principale mission de la MILDECA dans la lutte contre les addictions ?
Oui, alors... C'est jamais facile de décrire le rôle d'une administration centrale. Il y en a sans doute dont l'objet est plus limpide que le nôtre, parce que nous, c'est de la coordination. C'est faire en sorte que, ensemble, avec l'ensemble des administrations, des départements ministériels, comme vous dites, on puisse aller dans le même sens pour appuyer sur l'ensemble des facteurs qui vont réduire les risques d'addiction pour la population. Alors, d'une certaine manière, ça consiste, et vous allez voir que la tâche est à mon sens pas très aisée, mais qu'en même temps elle est passionnante, à articuler des politiques par nature assez répressives. Il y en a. Quand on veut lutter contre les trafics, il faut la police, la douane, la gendarmerie, la justice. Et puis à l'autre bout du spectre, il faut des politiques qui s'engagent pour réduire les risques sans juger les personnes. L'exemple peut-être le plus difficile encore, mais qui à mon sens significatif de ce bout de l'échiquier, c'est les salles de consommation à moindre risque, les haltes soins addiction. Mmh. Et puis au centre, il y a un vaste ensemble d'actions qu'on pourrait appeler davantage préventives, qui, elles, concernent plein d'administrations, plein de départements ministériels. Il y a de la prévention de nature éducative. Alors là, on est sur, finalement, la politique à la fois familiale et puis celle de l'éducation nationale, sans oublier les lycées agricoles qui ne sont pas dans la sphère de l'éducation nationale.
Ah bon ?
Ouais. Donc, vous voyez, il y a des petites
Ils
nuances
sont dans la sphère
du ministère de l'Agriculture.
Ah bon,
voilà.
D'accord.
On a évidemment tout le côté ministère de la Santé avec son cortège de prévention plus ou moins médicalisé, les accompagnements, le soin. On a les spécificités qui concernent les territoires. Donc, à ce moment-là, on parle aux administrations qui s'occupent de de traiter de la singularité des territoires, de faire en sorte aussi que dans les outre-mer, on n'oublie pas les singularités.
Oui, parce que j'ai vu que vous aviez un petit peu forgé votre manière de fonctionner par rapport à une des missions que vous avez eues dans les années 90 à l'étranger. Donc, j'ai vu que c'était...
Oui, mais ça, l'approche populationnelle, pour faire un peu simple, c'est un peu tout ce que je fais depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus un médecin qui soigne une personne. J'essaie de raisonner sur un groupe, une population,
voilà, c'est ça,
pour qualifier un problème de santé, qualifier des facteurs de risque et essayer d'apporter des réponses, voilà, plus pour un groupe que pour un individu.
Voilà, c'est ça.
Donc on peut faire ça effectivement à l'échelle d'un petit village perché dans un massif de l'Annapurna au Népal. On peut faire ça à l'échelle d'une grande ville en France. On peut faire ça à l'échelle internationale quand on bosse à l'OMS. En tout cas, le raisonnement est un peu le même. C'est-à-dire, en gros, j'ai une population ou un territoire dont je souhaite m'occuper. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les leviers qui sont à ma disposition? Qu'est-ce que je peux faire? Alors on fait effectivement ça. Moi, je me suis beaucoup tourné, hein, depuis que je suis à la tête de la MILDECA, vers les territoires, vers l'action au plus près des citoyens. On a la chance d'avoir un réseau, alors que ça fasse peur à personne, c'est les directeurs de cabinet des préfets de départements et de régions, qui sont nos correspondants naturels pour l'État, et qui nous aident à adapter notre politique à l'échelle... Maintenant, moi, je souhaite vraiment que ce soit fait à l'échelle du département. Et puis, je vais souvent aussi rencontrer des élus locaux, des maires, pour qu'on puisse, là aussi, décliner un peu les grandes orientations que nous, on peut donner à Paris en fonction d'un contexte local qui est propre à chacun. Il y a aussi des choses qu'on sait qu'on ne peut pas faire à certains endroits. Ça va mettre plus de temps. Mais chacun, je pense, a vraiment son... Voilà, sa
vous
place, quelle que soit sa sensibilité. Oui, l'alcool, c'est un peu plus difficile, ouais, dans certains endroits. Ne serait-ce que parce que... Oui, et puis parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de fêtes qui sont quand même basées aussi sur...
Bien sûr, il y a beaucoup de vignerons
de l'alcool, aussi. Il y a des vignerons, donc tout ça. Il faut que chacun puisse avancer aussi à son rythme. Moi, ce que je demande, c'est juste qu'on soit quand même un peu résolu dans un objectif qui est de protéger... D'abord les plus jeunes, parce que c'est leur cerveau qui en pâtit, hein, quand on commence tôt. Et puis c'est les risques que l'on prend et qui créent les générations futures d'addicts quand on commence trop jeune. Et puis par ailleurs, faire en sorte que les addictions ou la lutte contre les comportements excessifs, addictifs, soient au cœur d'une façon de vivre ensemble et d'être ensemble qui donne aussi de la place à chacun.
Vous avez d'ailleurs eu, pour les jeunes dont vous parlez, une bonne nouvelle,
ouais,
hier.
Absolument. Grâce à nos amis, et alors on appelle ça un opérateur, peu importe, mais c'est nos partenaires,
oui,
l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui est en fait l'organisme qui nous permet de ne pas être aveugle sur ce que l'on fait. C'est quand même pas mal, hein. Nos yeux, nos oreilles, de façon à avoir des photographies précises, tant que faire se peut, de la situation des conduites addictives concernant la France entière, certains territoires ou certaines populations. C'est très important d'avoir ça parce que je pense que tous vos auditeurs le partageront. On a quand même énormément de représentations sur les conduites addictives. Chacun un peu a son idée parce qu'il a ses propres expériences, il a sa famille, ses copains. Tout le monde parle de ça. Enfin, vous avez, dans une soirée, on parle assez volontiers de ça. Donc, chacun a des idées. Chacun a des idées reçues, parfois fausses, et vous avez en même temps un secteur économique, un secteur commercial qui lui-même impose son point de vue. C'est-à-dire que, et nous, notre boulot, c'est d'avoir quand même des choses assez objectives dans tout ça. Sinon, l'action publique, elle se heurte comme ça à des idées fausses ou des intérêts économiques. Donc l'OFDT, pour reprendre cet acronyme, il est en charge de l'observation, de nous donner des billes objectives, avec des enquêtes assez régulières pour nous dire ce qui se passe. Et on a eu beaucoup de chance hier parce que ça fait, en fait, c'est la troisième fois que l'OFDT, sur des enquêtes différentes, nous montre que la situation chez les plus jeunes est en train de s'arranger. Alors, ce que je dis de mon point de vue quand ça s'arrange, ça veut dire que les consommations baissent. Et là, ils nous ont montré hier que ça baissait de manière vraiment assez singulière, ouais, chez les collégiens et chez les lycéens. Avec une enquête qui est représentative, on n'est pas sur un sondage qui concerne 1000 personnes, on est sur une vraie enquête représentative. Et en particulier chez les lycéens, moi ce qui m'a un peu frappé, c'est que les usages les plus fréquents d'alcool ont été diminués par 3 entre 2018 et 2022, que ceux de tabac, le tabagisme quotidien a été réduit par plus de 2,5 sur la même période, et même le cannabis dont on dit aujourd'hui qu'il submerge notre pays, ce qui n'est pas faux d'un certain point de vue, mais en tout cas, les jeunes, c'est deux fois moins de consommateurs parmi les lycéens, pour ceux qui en consomment régulièrement, entre 2018 et 2022. C'est assez compliqué de savoir exactement pourquoi on observe tout ça. Mmh. On a quelques idées parce qu'on fait des choses qui normalement donnent ce genre de résultats. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle qui est importante aussi pour l'avenir en termes de mortalité. Et puis surtout, qui est une bonne nouvelle dès aujourd'hui pour les plus jeunes. Parce que toutes ces substances, elles ont quand même la particularité d'aller direct au cerveau, de se fixer sur des récepteurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais et de créer chez le jeune dont le cerveau est en train de se constituer des problèmes de formation réellement. Donc, on se retrouve, et on le sait très bien pour l'alcool ou pour le cannabis, c'est ceux qui commencent trop jeunes et qui consomment trop. On a des problèmes d'attention, on a des problèmes de mémoire, on a des problèmes de relation à l'autre, souvent. On a des problèmes de concentration. Derrière tout ça, ce qu'on voit dans d'autres enquêtes, c'est des problèmes scolaires, nécessairement. Des problèmes d'insertion professionnelle aux plus jeunes âges quand on rentre dans le marché professionnel. Voilà, donc moi, de mon point de vue, c'est plutôt effectivement des bonnes nouvelles. Ça nous oblige quand même, ça nous oblige vraiment à continuer l'effort, à pas surtout se reposer là-dessus, parce que je crois que tout est très fragile.
Oui, j'imagine aussi qu'on doit se poser la question de savoir est-ce que d'autres conduites addictives, justement, sont venues remplacer l'alcool et la cigarette, notamment les écrans. Je sais qu'il y a eu justement une étude qui est parue. C'est l'Institut Raphaël qui a justement fait cette étude, non ? J'ai entendu parler de ça, où on a enfin les chiffres des addicts aux écrans. Est-ce que finalement, les jeunes préfèrent passer leur temps sur leur tablette plutôt que de sortir ? Il y a un peu de ça aussi ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. L'OFDT hier a été pas mal interrogé sur le sujet. Au fond, est-ce que ces addictions qui baissent ou ces conduites addictives qui baissent chez les jeunes sont remplacées par d'autres écrans ou autres ? Alors, il y a une petite part, il y a une augmentation de la cigarette électronique, mais qui compense pas du tout la grosse baisse du nombre de fumeurs de tabac. Donc, on voit bien que c'est pas l'un pour l'autre. C'est peut-être que la cigarette électronique a, dans un premier temps, permis que certains ne se mettent pas ou arrêtent le tabac. Mais derrière, on n'est pas sûr que ça constitue pas un risque pour l'avenir, pour ceux qui commencent par la cigarette électronique. Non, je crois pas qu'on ait aujourd'hui des vraies substitutions vers d'autres produits. La question des écrans reste centrale, malgré tout, parce que c'est vrai qu'on est, pour les tout... J'allais dire les tout-petits. Oui, les tout-petits d'une part, et puis les plus jeunes. On a quelques sujets qui, s'ils ne relèvent pas exactement des conduites addictives, sont quand même des usages excessifs qui font que le temps qu'on passe sur un écran, notamment, on ne le passe pas avec ses parents, ses frères et sœurs, à interagir, à se toucher, à se regarder, à se sourire, à échanger quelques premiers mots. Et là, on sait que ça peut être relativement délétère.
Alors que l'alcool, lui, fait des liens sociaux. Non, mais c'est fou parce qu'en fait, le danger, c'est tellement insidieux. Je comprends, en fait, c'est pour ça que je disais les écueils de cette complexité. J'ai l'impression qu'il y a des vases communicants et ça doit être infernal de devoir gérer quelque chose en se disant, est-ce qu'on ne va pas justement ouvrir la porte à autre chose. Moi, je trouve qu'en tout cas, en effet, c'est une bonne nouvelle parce que c'est peut-être moins dangereux d'être sur son téléphone que de prendre de la drogue. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est une bonne nouvelle, surtout, je trouve, c'est si les enfants n'y vont pas, c'est peut-être aussi qu'il y a une amélioration de la santé mentale de nos jeunes.
Oui, alors le paradoxe, c'est qu'il y a d'autres études qui nous disent qu'ils vont plutôt un peu moins bien sur le plan de la santé mentale.
Bah alors là, pour l'instant, c'est compliqué
compliqué de tirer des bilans, vous avez raison. En particulier, depuis la crise sanitaire, on a un peu cette impression que des indicateurs de santé mentale se sont dégradés chez les jeunes. Et souvent, d'ailleurs, une dégradation de la santé mentale, ça s'accompagne d'une augmentation des consommations de psychotropes, parce qu'on va chercher ailleurs ce qu'on ne retrouve plus à l'intérieur. Alors, est-ce que les résultats auraient été encore meilleurs si on n'avait pas en plus cette dégradation de la santé mentale ? Honnêtement, c'est très, très compliqué. Moi, je ne suis pas capable de vous répondre là-dessus. Mais ça rend probablement assez prudent sur l'avenir de tels résultats. Le fait qu'il va falloir redoubler d'efforts parce que quand même, problème de santé mentale, anxiété, perte de confiance dans l'avenir, tout ça, ça pourrait un jour se retourner contre les conduites addictives ou les voir en augmentation. Je crois peut-être qu'il y a quand même, pour aller un peu dans le sens que vous indiquez, quelque chose qui existe depuis plusieurs années et qui est concomitant d'une forme de, à la fois de difficulté de la relation pour un certain nombre de jeunes avec leur entourage, de repli sur soi parce que angoisse, de perdre des moments de convivialité, qui ça peut expliquer une petite part quand même de la baisse des consommations. Parce que souvent, quand même, quand on est à l'adolescence ou à la post-adolescence, on consomme avec les amis pour faire la fête. Peut-être aussi la société étant un peu plus individualiste, le fait d'avoir ses propres repères, ses propres plaisirs, ses propres occupations, fait qu'il y a moins de moments de convivialité.
Il y a des addictions solitaires aussi, peut-être maintenant un peu plus, avec ces écrans.
Ah ben, là typiquement avec les écrans, oui, le trouble du jeu vidéo, pour quelqu'un qui se retrouve toute sa journée face à des jeux vidéo qui le captivent et qui sont d'ailleurs créés pour le captiver par des neuroscientifiques qui souvent, un peu comme une très bonne série, moi je ne suis pas un joueur donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu, vous voulez avoir l'épisode suivant absolument, donc ça c'est un peu un truc addictif. Effectivement, tout ça fait que vous êtes plutôt avec des occupations un peu plus isolées, un peu plus solitaires. Donc,
mais la MILDECA travaille beaucoup donc, sur ces addictions aux écrans, les neurosciences. Quelles sont vos actions et les agents que vous mettez sur le terrain pour lutter contre ces addictions aux écrans aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait concrètement?
Alors, pour lutter contre les addictions aux écrans, nous, on a fait un pari qui est plutôt l'éducation en famille.
Oui.
On a fait notamment des partenariats avec des associations ou dans le cadre du Safer Internet Day sur une sorte d'outils ludiques à partager en famille pour que chacun retrouve sa place, soit un peu modéré par le groupe aussi, le groupe familial. On se donne un peu des règles du jeu en famille. Je pense qu'on ne peut pas se plaindre aujourd'hui du comportement des jeunes, comme j'entends beaucoup de parents dire « il est sans arrêt sur ses écrans » sans s'interroger soi-même,
oui,
en tant qu'adulte, sur sa consommation d'écran.
Bien sûr.
C'est une catastrophe, la manière dont on ne se rend même plus compte de l'image que l'on renvoie, le nez sur un téléphone en permanence, le pro, le perso, puis après il y a la tablette, puis il y a quand même un peu de télé qui persiste ici et là. Ça fait beaucoup. Donc nous, on a plutôt misé là-dessus. Par ailleurs, on a un certain nombre d'actions qui fonctionnent vraiment bien, qui ont été prouvées scientifiquement et qui s'adressent aux jeunes. Alors en fait, on a des programmes qui marchent en maternelle, en primaire et d'autres au collège et qui visent à renforcer alors des choses assez complexes et assez intimes, c'est-à-dire tout ce qui va être l'estime de soi, la confiance en soi, l'esprit critique, le fait de se sentir bien au sein d'un groupe, d'écouter les autres, et la capacité à dire non. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Gérer ses émotions, gérer son anxiété. Ça, c'est des programmes assez exigeants, assez coûteux, qui s'inscrivent dans une démarche de moyen terme. Ça a une efficacité redoutable sur les conduites à risque en général, sur les addictions en particulier. Donc j'y inclus éventuellement les usages excessifs des écrans, mais c'est vraiment, ça a été mesuré principalement sur tabac, alcool, cannabis.
Et j'ai vu que cette politique visant justement à travailler sur les compétences psychosociales, donc ce qui soit émotionnel, cognitif, social donc aussi, j'ai l'impression moi vraiment... C'est l'avenir, mais bon, il va falloir attendre. C'est à moyen terme, comme vous le dites. C'est quelque chose qu'il faut commencer dès maintenant et dont vous n'allez pas pouvoir tout de suite rendre des comptes, j'imagine, aussi.
Honnêtement, on a déjà, dans tous les départements de France, ça se déploie progressivement parce que c'est des programmes qui nécessitent une ingénierie de projet qui est un peu lourde, des financements pour le faire, des gens qui savent le faire. Il faut que les établissements scolaires, par le biais du chef d'établissement, ouvrent leurs portes,
bien sûr,
planifient tout ça dans un agenda dont on sait qu'il n'est jamais simple. Mais ça fonctionne vraiment.
C'est la base. Hein,
c'est la base. Et il y a des programmes comme ça, d'ailleurs, qui peuvent être mis en place au sein des familles elles-mêmes. Et on travaille avec les parents sur ces questions-là.
Je crois qu'avec les réseaux sociaux, l'estime de soi est très difficile à, on va dire aujourd'hui, à conquérir, parce qu'on est obligé de se référer à ce que l'autre va penser de nous, chose qu'il n'y avait pas à l'époque, il y a longtemps. Et je pense que c'est ça aussi qui a un peu détraqué l'estime de soi, beaucoup. Je crois que c'est la, moi, vraiment, pour moi, c'est la base. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut vraiment agir le plus tôt possible. Et je suis un peu étonnée encore qu'il n'y ait pas très tôt à la maternelle, dans les petites sections, les grandes sections, l'école primaire, qu'il n'y ait pas déjà une espèce d'initiation à la relaxation, à la respiration, à la philosophie. Essayer d'expliquer à des enfants comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu perçois ton corps. Je suis assez étonnée que les gens découvrent comment respirer à 40 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas les travailler un peu dans ce genre de discipline, la philosophie, non, mais c'est vrai, à l'école, très tôt, quoi.
Alors, c'est pas exactement la même chose, mais pourquoi pas ? Je pense que...
L'estime de soi, c'est déjà avoir conscience de son corps et de qui
absolument.
On est.
Absolument. Il y a des thérapies, en tout cas, d'accompagnement des personnes addictes qui reposent sur des techniques ou des disciplines telles que celles que vous venez d'indiquer. Pourquoi pas, effectivement. Après, moi, je défends toujours un peu l'école dans le simple fait qu'on leur demande tout en permanence. Dès qu'il y a un problème de société, dès qu'il y a une bonne idée qui émerge quelque part, il faut que l'école fasse ça tout de suite. Bon.
Non, mais un remodèlement quand même de matière. On se rend compte au bout d'un certain temps qu'il y a des matières qui sont un peu aujourd'hui dépassées. Quoi. Oui. Je le vois avec mon fils qui va dire « je ne comprends pas pourquoi on fait cette matière ». Moi non plus, je ne la comprends pas. Ouais. Je ne mets pas... On ne va pas parler de ça trop longtemps non plus. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, ça me paraît un peu évident d'aller remodeler les matières et puis de donner un intérêt aux enfants qui n'ont plus du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes, surtout la même durée d'attention. Donc voilà, il y a beaucoup de choses.
Ça, c'est
comme
un
ça.
Enjeu. Hein. En tout cas, moi, j'ai une anecdote pour un réseau social qui nous avait demandé une vidéo pour travailler sur la prévention d'un risque addictif pour des jeunes. On avait fait très modestement et beaucoup trop rapidement, à mon goût, sans nuance, une vidéo de 1 minute 40. On a eu les stats, ils nous ont montré qu'ils décrochaient à la 9e ou 10e seconde. Donc, pour nous, c'est une révolution aussi dans la manière de nous adresser aux personnes. C'est...
Il faut mettre des influenceurs, vous le faites très bien d'ailleurs avec la tabacologue Katie Delleris, par exemple. Ouais. C'est ce genre de personnes aujourd'hui dont les jeunes ont envie, ou ce qu'on fait nous ici à Contradiction pour d'autres générations aussi. En tout cas, je pense que vous êtes sur la bonne voie.
Bah, les résultats d'hier, honnêtement, nous montrent qu'on n'a pas, mais ce n'est pas que nous, hein, mais qu'on n'est pas à côté de la plaque complètement.
Pas du tout, même.
Et moi, je resterai très, très focus sur le niveau local, sur les acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'accompagnement dans la proximité. Après, si on peut faire passer quelques, j'allais dire, changements au niveau national, on le fait. En tout cas, le fait de faire coopérer ensemble différents ministères, ça ne va pas de soi. Quand on parle de l'articulation pour les personnes qui sont dites sous main de justice, autrement dit des gens qui ont affaire à la justice, et la question de la santé sous-jacente à leurs propres addictions, il y a des articulations là que nous on travaille beaucoup. On a évidemment des questions fondamentales qui peuvent se poser aussi entre l'éducation nationale et puis la protection judiciaire de la jeunesse. On a des articulations à trouver entre des missions qui dépendent des départements, l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, et puis tous nos sujets. Moi, c'est ça qui m'amuse un peu, c'est d'aller forcer un peu, mais très amicalement, les gens à travailler ensemble et à faire un pas l'un vers l'autre. Vous savez, moi, j'ai une équipe de 30 personnes, vous le disiez tout à l'heure, avec des gens qui viennent d'horizons super différents. Il y a des gens comme moi qui viennent de la santé publique, médecin ou non, peu importe. Il y a des gens qui viennent de l'éducation nationale. Il y a une commissaire divisionnaire de police, il y a un spécialiste de la recherche, il y a un type qui bosse en particulier sur tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, il y a une lieutenant-colonel de gendarmerie, une magistrate. C'est pas évident quand ils intègrent la 1000 DK, quand chacun d'entre nous intègre la 1000 DK, de faire suffisamment de pas vers les autres pour s'ouvrir à des points de vue qui sont nécessairement assez différents. La culture professionnelle fait que, quand vous regardez les choses du point de vue d'un fonctionnaire de police ou du point de vue d'un spécialiste de la réduction des risques, vous voyez les choses au départ assez différemment. Et nous, on est un petit laboratoire, une petite équipe expérimentale du consensus possible.
Oui. Et c'est pour ça que je voyais ce titre-là, observer et agir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'observatoire, que vous avez besoin de ses yeux et de ses oreilles. J'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes le laboratoire qui va permettre de faire émerger des solutions. Donc, pour l'instant, je vais rester sur la 1000 des cas, observer et agir. Si vous avez mieux, vous me le dites. J'aimerais bien savoir comment justement, puisque vous avez décidé de collaborer avec nous, par exemple, comment est-ce que vous collaborez avec des entreprises par exemple, il y a les signataires de la charte ESPER,
ouais.
Donc pour promouvoir des environnements de travail sains. Et comment, comment ces entreprises-là, signataires de cette charte, elles s'engagent, elles, dans la lutte des addictions? Qu'est-ce que c'est cette charte ESPER?
Oui, alors ça part d'abord d'un constat assez simple. Les addictions, c'est le produit d'une personne, souvent avec ses caractéristiques innées, acquises, son expérience, sa confiance en soi, son estime de soi ou pas. Hein. Des produits plus ou moins addictifs ou dangereux, ça c'est la deuxième composante. Et puis la troisième composante, c'est tous les environnements, ouais. Les milieux de vie dans lesquels que l'on traverse quotidiennement ou plus occasionnellement. Alors on a beaucoup parlé de la famille, on a parlé de l'école.
Mais le travail.
Mais le travail, c'est quelque chose aussi. Et quand on a des entreprises ou des organisations publiques dans lesquelles on bosse et où il y a des problèmes d'organisation de travail, des problèmes de risques psychosociaux qui ne sont pas réglés, des pressions qui sont particulièrement fortes, derrière, pour une partie des personnes qui travaillent au sein de ces organisations et qui sont peut-être un petit peu plus fragiles que les autres, mmh. dont le risque est un peu supérieur, on voit que ça peut générer des addictions. Aussi simple qu'aller fumer très régulièrement des clopes en bas de lit. Voilà. Alors, c'est une question qui est souvent taboue encore, qui reste un peu difficile à aborder précocement. Très souvent, c'est une personne qu'on n'ose d'ailleurs pas trop nommer, on n'ose pas trop nommer ce qui se passe, mais on sait qu'elle boit, par exemple, et puis les collègues ne savent pas bien faire, et ça se termine la plupart du temps pas très bien, avec du reclassement professionnel, voire une sanction, etc. Mais on est arrivé trop tard, et on a une vision de cette question-là qui est trop individuelle. L'objectif avec la charte, qui est une charte qui est donc signée volontairement par les dirigeants qui s'engagent avec nous, mmh. c'est de prévoir une action beaucoup plus préventive, beaucoup plus en amont, qui est liée à la question des conditions de travail, des risques psychosociaux, du climat de l'entreprise aussi, et une solution donc en amont et collective. C'est-à-dire qu'on ne vise pas monsieur ou madame un tel, dont on sait que son comportement est déjà un peu problématique pour la boîte. Là, on vise un peu tout le monde. Et on en fait un chantier plutôt positif. Un chantier transversal au sein de la boîte, positif, en disant, bon allez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on analyse la situation. Donc s'engager pour la charte ESPER, c'est voilà, accepter de poser un diagnostic ensemble au sein de la boîte, porté par le management. C'est pas la médecine du travail, c'est pas la médecine de prévention. C'est le patron qui doit s'investir là-dedans.
Ah d'accord.
Et il doit considérer cette question-là comme une question de qualité de vie au travail, de santé au travail, mais en même temps il a un intérêt, c'est ce qu'on essaie de lui montrer, parce qu'en réalité les performances de l'entreprise ou de l'organisation s'améliorent si vous regardez les choses comme on le suggère. Voilà, donc on est assez content, on a 80 signataires aujourd'hui de la charte ESPER, avec des très grands groupes, des plus petits, du public, du privé, du voilà, tous les secteurs d'activité.
Du coup, ils s'engagent aussi à ne pas donner des conditions de travail qui justement demandent aux employés de consommer, en fait, aussi.
En fait, c'est un peu l'objet. Ouais. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que les gens, pour supporter le travail, n'aient pas plus de fragilité qu'ils n'en ont à titre voilà. très personnel.
Comme votre merveilleuse affiche que j'ai vue dans votre bureau, où il y a un homme qui part au travail, en fait, et on voit qu'il y a plein de cachets. C'est ça, hein,
oui,
c'est ça. Il y a marqué, il faut bien aller travailler.
Il faut bien aller travailler, exactement.
Voilà. Parce que c'est pas idée. Que l'alcool, c'est pas... Bon, il y a des métiers où on pense que c'est la cocaïne, d'autres où c'est l'alcool. Il ne faut pas oublier aussi la pharmacodépendance quand même aussi.
La pharmacodépendance, absolument. Puis, encore une fois, j'allais dire malheureusement tout simplement, le tabac. Ah oui. Aujourd'hui, sur l'alcool, c'est peut-être intéressant à noter, on a globalement des baisses en population générale, mais c'est la femme cadre qui est typiquement quand même cette personne avec une charge mentale assez forte, qui doit assurer au boulot, assurer dans sa vie personnelle, etc., familiale. Ces gens-là consomment un peu plus d'alcool. Ah oui. Je pense que c'est lié quand même un petit peu aussi à ce qu'on peut trouver comme pression dans le monde professionnel.
Et comment la Mildeca collabore aussi avec des organismes pour le sport, c'est ça, c'est ONAPS, INSEP.
Oui.
Donc le sport, vous remettez le sport au centre.
Ben on considère que il y a plusieurs manières d'aborder la question, mais en gros l'activité physique et sportive, mm-hmm. c'est plutôt pas mal comme facteur de prévention.
Ah oui. Hein, oui.
Pour des tas de bonnes raisons en santé publique notamment. Je crois aussi qu'en termes de lien social,
Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais moi, je sais que les ados, aujourd'hui, ils ont encore ce truc-là, d'aller faire du sport ensemble.
Aller faire du sport
ensemble. Moi, ça me rassure énormément de voir mon fils dire, je vais jouer, il part avec son ballon de basket, il va au Champ de Mars. Ça me rassure tellement, je me dis, ils vont faire du sport. C'est extraordinaire que ça les motive
sport,
encore.
Absolument. Ils ont des règles à respecter, des règles en commun, des règles personnelles aussi. Je trouve que ça, c'est aussi, éducativement parlant, c'est intéressant.
Ils se dépensent.
Ils se dépensent, donc sauf à tomber dans l'excès du sport, on est plutôt évidemment prompt à promouvoir l'activité physique et sportive pour les jeunes en tant que facteur de prévention. Par ailleurs, ça peut être utile là aussi le sport, c'est-à-dire sur ordonnance, pour aider en accompagnement d'un certain nombre de traitements de lutte contre la dépendance.
Ou même avant la médicalisation, peut-être, avant qu'on donne des traitements aux enfants très vite. Peut-être commencer par leur prescrire une activité sportive.
Ça, c'est je ne sais pas si on arrivera jusque-là, mais en tout cas, dans l'activité physique dite adaptée pour les adultes qui ont un certain nombre de maladies chroniques, dont les addictions, ça peut être quelque chose d'assez utile en réalité. Donc voilà, nous, on profite un peu des événements aujourd'hui qui ont déjà eu lieu. On a eu la Coupe du Monde de rugby, on a le Championnat d'Europe de foot bientôt, et puis bien entendu. Jeux Olympiques et Paralympiques, pour essayer de travailler avec des partenaires du champ du sport et de l'activité physique, l'Observatoire national des pratiques sportives, qui nous a permis justement d'y voir un peu plus clair sur tout ce que je viens de vous dire un peu trop rapidement nécessairement.
Donc l'ONAPS, donc encore un observatoire.
Un observatoire, absolument. Et puis on travaille avec l'INSEP pour essayer de recruter quelques sportifs qui seront dans la délégation française aux Jeux Olympiques pour qu'ils adressent là aussi sur les réseaux sociaux quelques messages par rapport à leur expérience personnelle sur, peut-être comment ils auraient pu, s'ils n'avaient pas eu le sport, avoir peut-être être soumis à quelques addictions.
Ou... C'est pas mal de le prendre comme ça à l'envers.
De le prendre un peu
de dire, tu admires telle personne et dire, mais si je n'avais pas eu le sport, je serais peut-être ça.
Voilà.
Vous collaborez donc en fait avec tellement, c'est un peu le principe, de coordonner toutes ces actions. Et c'est merveilleux parce qu'on sait que l'addiction, c'est une maladie multifactorielle. Donc, il faut la prendre totalement à 360 degrés et justement entourer. C'est ça, pour moi, la protection.
Absolument.
On le fait même individuellement. Moi, je sais que j'ai des garde-fous tout autour, que ce soit le sport, justement, la famille. Il y a énormément de barrières et de piliers.
Ouais, voilà, absolument.
De balises. Et donc, vous collaborez aussi avec des personnes comme nous, des gens privés. Ouais. Et ça, qu'est-ce que vous attendez? Parce que moi, ça m'importe de savoir qu'est-ce que vous attendez de nous, par exemple, la contradiction de ce podcast. Moi, j'ai l'impression, vraiment, au retour que j'ai sur les réseaux sociaux, d'aider énormément. Parfois, je me dis, juste une personne qui me dit « j'ai arrêté de boire » ou « j'ai pris conscience que je me rends compte que j'aide énormément ». Est-ce que vous avez conscience, vous, de ça? Vous pensez que ça peut vraiment...
Ouais. Peut-être deux niveaux de réponse. Le premier, c'est un peu celui que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire quand on multiplie les émetteurs, on va multiplier les chances que des gens se sentent pas trop seuls face à cette situation arrivent à trouver un certain nombre de convergences et de repères par rapport à tout ce qui est, ce qui est difficile chez eux. Donc il y a un côté presque d'accompagnement, alors je mets beaucoup, beaucoup de guillemets dans ce que je dis, mais thérapeutique et individuel pour finalement, inviter des gens à en parler, inviter des gens à se préoccuper, inviter à des gens aussi à trouver des solutions qui existent de fait, parce que le monde de l'addictologie propose quand même un certain nombre de solutions. Et puis derrière, je pense que vous êtes pour nous, et ça c'est très important, un relais aussi des principaux messages. Du fait que, comme on a pu le dire tout au long de cet entretien, il y a des milieux de vie qui protègent, il y en a d'autres qui protègent moins, il y a des messages quand même clés en matière de dangerosité qu'il ne faut pas oublier, on n'en a pas parlé tellement là dans le détail. Mais voilà, donc à la fois, il y a une action, j'allais dire, vous participez d'une action de santé publique, et ça, il ne faut pas être médecin de santé publique comme moi pour être un acteur de santé publique, tout le monde peut l'être. Et puis, vous êtes aussi, je pense, des bons relais plus en direction des personnes.
Je pense qu'il y a le côté un petit peu personnalité, entre guillemets, connue un peu plus ou pas, mais il y a aussi ce truc-là d'être une addict moi-même, d'avoir traversé tout ça. Je pense qu'il n'y a pas mieux aussi pour comprendre un addict qu'un addict. Ça, je sais que c'est ce qui marche dans les groupes de parole. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des groupes de parole au sein de... Enfin, en France et dans le monde entier, hein, ces groupes de narcotiques anonymes, alcooliques anonymes.
Non, mais... Enfin, je suis très heureux d'abord, un, qu'ils existent, deux, qu'ils fassent le travail qu'ils font, et tout simplement parce que je crois que les solutions, elles sont un peu individuelles et qu'il n'y a pas une seule manière de prendre en charge des personnes. Il y a des gens qui vont trouver que c'est horrible d'aller dans un groupe comme ça, très bien, et qui seront juste très bien avec leur addictologue, dans une relation singulière, à le voir régulièrement... Bon. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. Et ça, c'est remarquable que ça existe. Alors, je crois que vraiment, s'il y a un domaine, à la fois en prévention, comme en prise en charge, comme en accompagnement, où il n'y a pas une solution unique, c'est bien les questions de conduites addictives. Donc, il faut ouvrir la palette des possibles. Tous ceux qui vous disent « la solution, c'est ça », moi, je m'en méfie.
Non,
il n'y en a pas qu'une. Il y en a beaucoup d'autres. Sauf certaines grandes découvertes. Quand on a découvert les traitements, les médicaments de substitution aux opiacés, ça, évidemment, ça constitue la pierre angulaire de certains traitements. C'est très important.
Même pour la cigarette, Katie nous l'a bien expliqué. Puis on a eu aussi Marine Soussaint, une super tabacologue, qui nous explique qu'on n'est pas obligé de souffrir pour arrêter de fumer.
Exactement.
Et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés au mois de novembre sans tabac avec les conseils de vapoteuses, de patch. Voilà, aujourd'hui, on a la chance. Il y a certaines drogues qui ont des substituts.
Absolument.
Ça, c'est une avancée extraordinaire.
Absolument. Mais tout le travail plutôt de nature psycho, là, on peut le faire en groupe, on peut le faire en individuel, et il faut qu'il y ait toutes ces solutions absolument qui existent.
Tout à fait, mais on se rend compte quand même que c'est une maladie du lien, beaucoup, et donc c'est vrai que les groupes donnent déjà ce lien. Après, le lien peut être fait en effet avec le thérapeute. Ce qui est important, c'est même pas le thérapeute. Des études disent que c'est le lien qu'on crée avec le thérapeute, au-delà de la thérapie du thérapeute lui-même.
L'alliance thérapeutique.
Exactement. Donc ça, c'est quand même assez merveilleux de savoir qu'on peut créer du lien avec son médecin. Quelles sont les nouvelles drogues, les nouveaux curseurs, les nouveaux défis? Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques, des façons de consommer auxquelles vous faites face aujourd'hui et qui sont dans votre ligne de mire, dans votre ligne de tir, ou je ne sais pas comment dire? Les deux.
Les deux. Deux choses évidentes pour moi. Le problème des psychostimulants, le produit phare, c'est la cocaïne. Le petit frère, c'est le crack. Et puis derrière, il y a plein de produits de synthèse. Toutes ces drogues, le lapsus, qui sont des boosters qui permettent à la fois de
performer
au travail. Et c'est plus du tout simplement les mêmes métiers qu'avant qui sont concernés par ça. Auparavant, on parlait des traders, des milieux artistiques. Enfin, en gros, un truc très parisien.
Et en vrai, il n'y en a plus beaucoup de traders et d'artistes qui se droguent à la cocaïne.
Voilà, donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est plutôt des métiers difficiles. Vous parliez tout à l'heure de la restauration. C'est typiquement ce genre de choses, les marins pêcheurs. Des gens qui ont des vies difficiles, qui ont besoin d'aller vite et d'être performants.
J'aimerais lancer un appel à témoins, puisqu'on aimerait faire cet épisode sur justement les métiers difficiles et sur l'addiction dans le milieu du travail. En tout cas, si certaines personnes sont dans cette souffrance-là ou vivent avec un proche, c'est très intéressant pour nous de pouvoir justement inviter quelqu'un qui vit cette chose-là et pas justement le milieu parisien et les stars. Et on est, c'est plus ça, c'est pas
plus
les paillettes.
C'est plus ça du tout.
Voilà. Voilà. En tout cas, vous serez le bienvenu ici. Je vous laisse continuer.
Non, mais voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Alors, effectivement, il y a des gens qui consomment pour le travail, pour la performance au travail. Il y a des gens qui consomment toujours pour la performance festive, si j'ose dire, s'amuser, etc. Et puis, il y a une troisième catégorie où là, on aborde la question qu'on connaît souvent sur la terminologie chemsex, qui est la performance sexuelle et qui n'est pas limitée, n'est plus limitée au milieu homo parisien. Là, encore une fois, c'est... Mais au-delà de ces produits-là, et si on se projette dans un avenir encore plus lointain, c'est très propre. Parce que, enfin, ça, c'est pas un avenir, pardonnez-moi, mais c'est tout de suite et maintenant qu'il faut s'occuper de ça.
Oui.
Sur l'avenir, je pense que la production de drogue, j'allais dire à l'ancienne, avec des champs dans des forêts ou dans le désert marocain, on en verra le bout bientôt, en réalité. Je crois que tout va passer par la synthèse. C'est très facile de fabriquer des drogues de synthèse. Les psychostimulants, je viens de vous en parler, mais il y a aussi des cannabinoïdes de synthèse, il y a des tas de drogues de synthèse.
Certaines
qui
sont en vente libre en plus encore aujourd'hui, avant qu'elles soient interdites. Enfin, il y a des choses.
Enfin, on court parfois après la réglementation.
Ils en vendent dans les magasins de CBD parfois. Encore.
Voilà, mais vous avez aujourd'hui une grande. Enfin, malheureusement, les réseaux criminels achètent ce qu'on appelle des précurseurs, c'est-à-dire des molécules de base, par bidon entier de 50-100 litres. Mélange ça, blablabla. C'est un peu Breaking Bad, la série. C'est quand même ce système-là. Avec, vous imaginez les bidons, les machins, quelques chimistes qui font le machin. C'est quand même, ça prend beaucoup moins de place que des grands champs ou des bouts de forêt. Ça consomme souvent moins d'argent parce que l'investissement n'est pas si important. Et ça rapporte beaucoup en termes de fric. Et ça peut se faire assez facilement partout depuis, alors on sait qu'il y a des usines en Chine, en Russie, en Inde, mais plus près de chez nous, au cœur de l'Europe.
Et comment vous filez ça, enfin comment vous remontez jusque là?
Oh bah ça c'est le travail des enquêteurs, ouais, qui savent ça, mais le problème c'est que je pense qu'on va vraiment basculer dans un monde comme ça de laboratoires clandestins, qui seront à nos portes, qui seront sans doute chez nous d'ailleurs.
Complètement.
Et il va falloir suivre cette affaire de très très près.
Ben on va la suivre de très très près, je pense. On aurait plein d'autres questions à vous poser, mais d'ici là, on se reverra, je pense. Moi, je suis ravie aujourd'hui que nos auditeurs puissent avoir accès à vos connaissances. Et je suis ravie que nos épisodes prochains soient présentés en partenariat avec la Mildeca. Merci Nicolas Price pour cet entretien.
Merci à vous.
Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.